Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 11h.
Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, aujourd'hui, nous vous proposons une série d'interviews réalisées aux Coupes Moto Légendes qui se sont déroulées les 24 et 25 mai derniers sur le circuit de Dijon-Prémois. Pour commencer, de l'aventure avec Eric Grand Voyageur qui roule avec une BMW R12 attelée de 1939. Eric nous raconte ses voyages de l'Amérique du Sud au Népal et de l'Asie centrale à la Russie. Juste après Eric, rendez-vous avec Pierre, le président du groupement des amateurs de véhicules anciens de Picardie, le GAVAP. Laurent Rosette, passeur d'histoire, nous raconte l'aventure de son père et de sa Zundapp et sa rencontre avec Barry Sheen, le pilote mythique des Grands Prix moto des années 70-80. Et nous terminerons cette émission avec Régis du motoclub des Vikings. On vous propose un premier morceau de musique et on se retrouve juste après. À tout de suite.
I'm
sommes toujours aux Coupes Moto Légende ici à Dijon-Prémois et nous avons rencontré un très grand voyageur, c'est Eric. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, j'aimerais que tu expliques un peu tous tes voyages aux auditeurs de Radio Campus Lille et de Kikinkout et Toupal.
Oui, alors l'idée c'était à la base de voyager avec une machine qui est très ancienne, qui est de 1939, avec un sidecar. Alors voyager comment ? Voyager un petit peu dans les conditions où on le faisait dans les années, on va dire 50, où on voyageait par plaisir uniquement, avec un minimum de moyens financiers. C'était ça l'idée, qu'on a, j'espère, réussi, parce que les budgets étaient très réduits à chaque fois. Alors je ne sais pas si ça va parler aux gens, mais on ne dépassait pas les 2000 euros pour un voyage de 3 mois, tout compris, visa compris, ce qui est très peu, puisque objectivement, on essayait, d'abord le budget nourriture était réduit au minimum, ou au maximum, je ne sais pas comment on peut dire ça, de 4 euros par jour pour pouvoir manger. Ça, c'est un truc, c'était indispensable.
Ça, c'était
pour
à quelle
pouvoir...
époque, ça ?
Alors, ça s'est échelonné entre 93, je crois, et 2023, à peu près. Voilà, il y a eu une trentaine d'années de voyages, un petit peu exotiques, on va dire, qui nous a amenés en Amérique du Sud, qui nous a amenés au Népal, qui nous a amenés en Russie, beaucoup, l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la route de la soie mythique pour tout le monde... et rencontrer des gens qui à chaque fois nous ont accueillis de manière extraordinaire.
Ah, tu dis nous parce que vous étiez à plusieurs.
Alors c'est oui, souvent on était à deux avec le sidecar, quelquefois même à deux sidecars identiques à celle-là, et donc bah voilà, on était à deux à chaque fois, au minimum à deux.
D'accord. Et donc comment ça marchait? Tu campais? Vous êtes allé chez l'habitant? Comment ça marchait le soir pour manger aussi également?
Alors pour manger, on s'arrêtait au moins une fois par jour dans les troquets locaux, les trucs pour les routiers, hein, le truc qui te sert une tambouille qui va bien, qui est saine et pas chère. Et le soir, on s'arrêtait, on essayait de s'arrêter avant la nuit parce qu'on roule pas de nuit, c'est trop dangereux.
Oui.
Et on trouvait un bivouac quelconque sur le bord de la route. Moi, ça m'est arrivé de camper sur des trottoirs de village, au milieu des gens.
T'avais la tente avec toi ?
Ouais, avec la tente. Ouais. Ouais, ouais.
D'accord.
Alors, ça, suivant les températures, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais dans l'absolu, c'était la tente en priorité. Alors, certains pays comme la Russie. Alors, je sais bien que là, de nos jours, la Russie.
Ah, la Russie, c'est embêtant. Ouais.
C'est un petit peu. C'est pas politiquement correct de dire ça, mais on a été accueillis d'une manière fantastique par les motoclubs locaux, qui sont très efficaces là-bas et qui sont très solidaires entre eux.
D'accord. Et quel pays t'as le plus marqué, en fait?
La Russie.
Que éventuellement la Russie, oui.
Ouais, ouais. La Russie, c'est un. Ouais. C'est un pays, j'appelais ça le Far East, parce que ça ressemble un peu au Far West des grandes années.
Alors c'était à quelle époque ça, faut recentrer un peu le...
Alors pour recentrer, le dernier voyage qu'on a fait, c'est pas très vieux, c'était en 2017. Et un autre voyage important qu'on a fait, c'était en 2014, où on a traversé la Russie en hiver, avec les conditions climatiques qu'on imagine. On a eu du moins 40 pendant un certain temps. L'idée à la base de ce voyage était d'aller poser les roues de la R12, puisque la moto s'appelle R12, BMW R12.
Il va falloir que tu me parles de ta moto. Hein.
Oui, bien sûr, mais c'est la principale.
En fait, c'est un attelage, hein, c'est avec une moto, avec un side.
Avec un sidecar, oui.
Ah, voilà.
Moi, j'ai jamais pu dire side. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'y arrive
ou
pas.
Ou sidecar, hein. Je ne sais pas. Moi,
oui, non, mais moi, j'aime bien sidecar, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et donc, l'idée, c'était de poser les roues de la moto sur le Baïkal, qui est un immense lac, le plus grand lac peut-être du monde, qui est gelé évidemment l'hiver, puisqu'il fait des températures extrêmes, une épaisseur de glace je crois qui va jusqu'à 1,50 m, oui. Donc on peut rouler sans problème avec le sidecar. Donc l'idée c'était ça, de poser les roues de la moto sur ce lac Baïkal.
D'accord, mais là tu campais pas là, comment tu fonctionnais?
Eh bien si, on a campé, disons, à 85% du temps, on a campé.
Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue quand même, parce que tu dis, il faisait moins 35, moins 40, comment on se protège du froid? Comment on peut rouler par moins 35, moins 40 et dormir sous la tente avec des températures de cet ordre-là?
Alors, pour être franc, à moins 40, la moto a refusé de marcher. Donc, on est resté planté au milieu de l'Oural, qui est une montagne russe. Hein. L'Oural, d'ailleurs, Irbit, les fabricants Oural, oui. De l'Oural sont pas loin.
L'Europe et l'Asie. D'ailleurs.
Exactement. Ouais, c'est ouais. Et symboliquement, c'était très, très important, parce qu'on avait l'impression d'être planté à l'endroit précis où on devait passer en Asie. Donc, c'était un symbole fort. À moins 40, la moto a refusé de marcher parce que la carburation ne se faisait plus, on n'avançait plus, le moteur ne chauffait même pas. On n'arrivait pas à conserver une température qui fait que le moteur fonctionne normalement. On est resté planté 3 jours sur place. On a été accueillis dans un garage qui nous a offert le gîte et le couvert d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est vraiment très très bien accueillis là-bas. Pendant ces 3 jours, en essayant de trouver une solution avec des camions de passage pour désatteler la moto, la mettre dans un camion pour passer ce cap. Puisque après on descendait, on retrouvait des températures à peu près acceptables, de l'ordre de moins 20, moins 25, qui sont des températures où la moto fonctionne.
Oui, c'est acceptable. Moins 20, moins 25, c'est acceptable.
Ben pour la moto, moi, en fait...
Mais pour le pilote et les passagers, alors, comment fait-on?
Alors c'est rigolo, parce que le froid, c'est un peu comme la chaleur extrême. On ne s'en rend pas compte de ce que c'est. Passer les moins 20... On ne voit pas la différence réellement entre moins 20 et moins 30, moins 40. Mmh. C'est ça qui est d'ailleurs très dangereux, ouais. Parce que c'est là qu'on se met en danger. Et donc, le pilote, c'est pas qu'il appréciait les moins 40, mais on ne voyait pas bien la différence. C'est très curieux, ouais, ouais. Hein, très curieux. C'est pareil, la grosse chaleur entre 50 et j'en sais rien, 30 degrés. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a chaud, quoi. Hein, voilà. Donc on se protège comme on peut. Moi, j'ai jamais eu de matériel sophistiqué moto. Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais eu d'équipement de moto. D'accord. Moi, je voyage avec les surplus de l'armée en général. Okay. C'est pas toujours très esthétique, mais c'est pas cher. Et puis, finalement, ça protège pas mal.
Parle de ta moto, hein, parce que pas une moto récente. Hein.
Non, alors la moto est de 1939, parce que c'est vrai qu'on a passé à...
C'est la retraite de Russie, ça, le 39.
La retraite...
C'est la campagne de Russie.
Oui, la retraite de Russie, c'était autre chose. Ouais. Mais 1939, oui, c'est la grande époque de la moto...
C'est la soupape latérale, c'est ça ?
Soupape latérale, 750...
Ça, c'est plus, hein, ça.
Non, ça se fait plus.
C'est plus à la mode.
Et c'est pas. Ouais, ça manque un petit peu de puissance.
C'est ça, oui. Ouais.
Vous avez
mais il y a un gros avantage, c'est que ces moteurs-là tournent très lentement et ont très peu de compression, ce qui fait que l'embiellage supporte beaucoup de choses.
Oui.
Et même à la limite, il supporte d'être un peu usé, on va dire.
D'accord.
Donc on tombe pas vraiment en panne. C'est ça qui est bien.
Voilà. Et aujourd'hui, ici, au Coupe Moto Légende, tu es venu avec.
Ah ben oui, comme à chaque
alors,
fois.
Alors, elle a combien de kilomètres cette moto?
Alors, on n'en sait trop rien. Encore un symbole. J'ai jamais pu, sur cette moto, avoir un compteur qui fonctionne. Ah. À chaque fois que je l'ai réparé, il a cassé pour telle ou telle raison.
Oui.
Donc, à un moment, j'ai dit, je laisse tomber, on verra bien. Et puis, on n'en a pas besoin, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, les kilomètres purs, je ne sais pas. Mais un jour, j'ai fait le compte de tous les kilomètres en voyage. Et on doit avoisiner les 160 000 kilomètres de voyage.
D'accord.
Mais je m'en sers tout le temps.
Alors, tu parlais du Népal aussi.
Du Népal, oui, bien sûr.
Ouais,
bien sûr.
Ça devait être impressionnant aussi comme voyage.
Ouais. Alors, moi, j'aime bien les choses importantes. Il y a deux choses que je voulais faire, enfin, trois choses. Je voulais que la moto aille vers, parce que n'exagérons pas, vers l'endroit le plus élevé du monde, qui est l'Everest, et le Népal, enfin l'Everest, c'est
le Népal. Ah, mais c'est pas possible
en
moto.
Mais on s'est approché, on a été le plus près possible de l'Everest. Alors, peut-être à 200 km quand même. Hein. Pareil pour l'Amérique du Sud avec la cordillère des Andes, donc les deux plus grandes montagnes du monde. Mm-hmm. On est allé au Cap Nord, tout au nord du continent,
ouais,
avec la moto, et on est allé à Ushuaia, tout au sud du continent d'Amérique du Sud.
Avec cette moto qui est présente aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et moi,
il y a une chose qui m'épate toujours quand je suis dans la vie de tous les jours, c'est que je la vois dans le garage, je me dis, ah, putain, c'est quand même incroyable. C'est pas possible, c'est pas possible qu'on ait fait tout ça. C'est pas possible.
Ouais, non.
Même moi, je n'arrive pas à réaliser ça.
Et alors, tu faisais quoi comme travail pour pouvoir faire tous ces voyages?
Ah, mais j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai été pendant 15 ans militaire, j'ai pris une retraite très tôt.
Ah oui.
Et ça m'a permis, même sans beaucoup de moyens, de programmer des choses comme ça. Mm-hmm. Mais c'était une période idéale, parce que justement, on arrivait à trouver des combines pour monter des projets comme ça. Ça devient
et puis
de
c'était
plus
une époque
plus dur
où on pouvait encore, on va dire, facilement voyager dans les pays.
Ben, pour certains pays, oui.
Oui.
Ben, oui. Moi, j'ai une chance extraordinaire. J'ai connu la Russie dans la meilleure période pour voyager là-bas. Il y a eu un créneau qui était relativement restreint, qui a duré peut-être 8-10 ans, où la Russie s'est ouverte, où malgré le visa, il fallait un visa, mais on n'était pas emmerdé sur la route. Il n'y avait pas de tension avec les populations locales, pas de tension avec les autorités. Ça se passait super bien. Voilà. Et ça s'est refermé aussi vite que ça s'est rouvert.
D'accord. Est-ce que tu as des projets encore là ou c'est terminé, toutes ces histoires de voyage?
Non, j'ai pas de projet pour l'instant. Bon, évidemment, quand on est piqué au voyage un petit peu au long cours, c'est difficile de tourner la page. Mais la situation actuelle est tellement tendue un peu partout que c'est très compliqué. Et surtout, tous les tarifs, bon, carburant déjà, mais les tarifs de visa ont augmenté, les tarifs de carnet de passage en douane, qui est une sorte de passeport pour la moto, enfin le véhicule, ont beaucoup augmenté aussi, ce qui fait que c'est plus dans mes moyens. Là, actuellement, là, je peux pas m'organiser comme ça. Habituellement, à chaque fois, je vends une de mes motos. pour payer le voyage.
Ah ouais.
Ben là, même en vendant la moto, parce que j'en ai toujours une que je retape, etc. Mais ouais, même en vendant la moto, je n'ai pas les moyens de faire ça.
D'accord. Alors dis-moi là, tu dis que tu es allé jusqu'au Népal avec ta moto, en passant par où?
Alors, on a un peu triché. Hein. Ouais. Elle est partie jusqu'à Bombay par bateau.
D'accord.
À l'époque, on a eu la chance, j'étais bien entouré. Il y avait des copains qui ont participé au voyage, qui avaient des bons contacts et qui nous ont permis d'avoir un sponsor qui nous a payé le transport. D'accord. Donc on l'a récupéré au Népal, en Inde, à Bombay. Et de Bombay, on est allé jusqu'au Népal par la route. Du Népal, on est revenu en Inde, Pakistan, Iran, Turquie, par la route. Et je suis rentré comme ça. Donc l'avantage, c'est que ça nous faisait gagner du temps, quoi.
Bien sûr. Ah, ça semble incroyable, hein, de pouvoir faire de... Vous êtes passé par le Pakistan, l'Afghanistan.
Oui, actuellement.
On a contourné l'Afghanistan.
Okay, d'accord.
Alors, paraît-il que là, actuellement, des gars traversent l'Afghanistan. Mmh. Alors, j'avoue que ça m'a toujours tenté. Maintenant, il faut déjà arriver jusque-là. Et l'Iran demande un carnet de passage en douane, je crois, à 7 000 euros. Là, je n'ai pas les moyens. Avant, c'était 2000 euros, ça coûtait 2000 euros. Mmh. J'arrivais à trouver des gars qui me prêtent 2000 euros comme ça, parce que on est remboursé au retour quand on a ramené le véhicule.
D'accord. C'est une taxe.
C'est
qui
une caution.
C'est une caution pour la vente sur place.
Voilà, exactement. Théoriquement, ça sert à ça. Bon, maintenant, après, on sait très bien que c'est une histoire de gros sous et que ça intéresse tout le monde. Mmh. Mais l'Iran a décidé depuis quelques années de multiplier par deux ou trois ses tarifs, ce qui fait que ça devient complètement impossible. Et pour aller en Afghanistan, il faut traverser l'Iran et le Pakistan. Le Pakistan, ça va à peu près, mais c'est l'Iran, quoi. Là, donc voilà, c'est plus possible.
Vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. Tout de suite, on retrouve notre voyageur de l'extrême, Eric, avec sa BMW R12 de 1939. Tu pourrais donner des conseils éventuellement à des jeunes qui éventuellement auraient envie de voyager. Alors, peut-être pas comme tu l'as fait. Est-ce que tu aurais des conseils ? As-tu des conseils à donner ?
Je connaissais un gars qui a voyagé beaucoup avec un oral, qui est décédé depuis parce qu'il avait une grave maladie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait tout laissé tomber, il avait tout lâché. Il était parti pendant 10 ans par les routes. Qui disait « N'oublie pas chaque jour de prendre un risque ». Et ça, c'est important. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre un risque, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire aller au-devant du danger. Mais ça veut dire, quand on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller, on se donne les moyens. De toute façon, quand on a envie de quelque chose, il faut s'en donner les moyens, c'est comme ça. Et une fois qu'on s'est donné les moyens d'arriver à ses fins, on y arrive. Parce que de toi le ciel t'aidera, etc. On peut prendre plein de maximes comme ça. Mais c'est tellement vrai. Tellement vrai.
Bien. Et puis, il y a un proverbe chinois qui dit qu'une marche de 1000 km commence toujours par le premier pas.
Absolument.
C'est le plus difficile à faire.
Souvent, on m'a dit...
Et une fois que c'est parti, c'est parti.
Ouais. Et souvent, on m'a dit, mais... Hey, attends, là... Bon, je dis ça sur le ton de la plaisanterie un petit peu, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans les voyages ? J'ai mis le plus difficile, c'est le premier jour d'ouvrir la porte du garage, de sortir la moto, voilà. De monter dessus et de partir. Et après, c'est tout droit. C'est un peu vrai. Et chaque jour est une aventure. C'est ça qui est merveilleux. Et ça, c'est un truc que je recommande à tout le monde. C'est de partir sans un but précis. Ou si tu as un but, il est relativement loin. Ça veut dire que toutes les journées que tu vas passer pour atteindre ton but, tu ne sais pas où tu vas atterrir, tu ne sais pas où tu vas t'arrêter, tu ne sais pas si tu vas bouffer, tu ne sais pas si tu vas trouver du carburant, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est une aventure.
Par contre, c'est l'aventure quand même.
Oui, mais c'est génial.
À notre époque où tout est bien formaté, où il n'y a plus de danger.
Et voilà. Eh bien oui, mais justement, on s'aperçoit qu'on peut le faire malgré tout ça, quand on sort de nos frontières, parce qu'il faut quand même sortir des frontières européennes pour retrouver un semblant d'aventure, entre guillemets. Moi, j'ai été passionné. Moi, j'ai vécu toute mon enfance avec Tintin. Par exemple, j'ai appris à lire avec Tintin les récits d'aventure des grands explorateurs, tout ça, on a été gavé de tout ça. Et j'ai toujours été passionné par cet esprit où, alors, des gens qui en plus n'avaient rien là. Quand ils partaient, ils ne savaient pas où ils allaient là, hein. Nous on sait à peu près où on va, hein. Même si on n'a pas de GPS, etc., on a suffisamment de cartes détaillées pour ça. Et donc passionné par ça, et on s'aperçoit que la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est d'avoir envie de ce qu'on va faire. Le reste, ça vient naturellement. Et tous les ennuis qu'on peut avoir sur la route, c'est du bonheur. Parce que...
C'est de l'expérience.
Et puis un ennui entraîne une expérience, une aventure avec un type que tu vas rencontrer, qui va te sortir de la merde. Tu ne sais pas pourquoi il était là. Il fallait que ça arrive là. Et ça, j'ai vécu ça des centaines de fois.
Alors, des anecdotes, tu dois en avoir des centaines. Tu dois en avoir des centaines. Et j'ai une question très bête à faire, peut-être difficile. Si tu en avais une à raconter, ce serait quoi ?
Ça va être dur. Hein.
Ah bah oui, je me doute
ça,
bien.
Ça va être dur. Hein. Mais j'en ai une, mais elle est un peu longue. Mais ça fait rien, je vais la faire courte. Retour de Russie, en Russie, retour du Baïkal. J'ai 1000 km à faire avec un visa qui a couru parce qu'on a perdu du temps en Mongolie. Donc je suis obligé de rouler plus que d'habitude, c'est-à-dire 300 km par jour, ce qui paraît rien. Mais qui, avec une machine comme ça, est beaucoup, dans des conditions relativement difficiles, parce que la route complètement défoncée par le dégel, etc. Je fonce, je suis tout seul. Je sais que je n'ai pas droit à l'erreur, parce que si j'arrive après la fin de mon visa, je vais avoir des ennuis pas possibles. J'arrive dans un patelin où je suis complètement lessivé. Je vois un type, je lui dis est-ce que je peux poser ma tente là sous cet abri parce que c'est mieux sous l'abri qu'en pleine campagne, tout ça. Il me dit non. Ah, non, tu viens chez moi. Ah bon ? Bon, je suis dans un tel état que je n'ai même pas la force de lui dire « Non, non, je ne veux pas venir. » Donc, je viens chez lui. Il m'a installé chez lui. Il m'a donné une bouteille de bière. Il m'a assis. Il m'a donné une bouteille de bière. Il m'a dit « Voilà, tu bois. Je vais faire chauffer le bagna pour toi. » Il m'a amené là-bas. Sorti du bagna, il me portait. Il m'a donné des sous-vêtements neufs pour pouvoir me changer. » Le soir, il m'a fait à manger, il m'a dit « Tiens, mon lit est là, je te donne mon lit, je vais coucher sur le canapé. » J'ai dormi, évidemment, tellement épuisé. Le lendemain matin, mais je lui dis « Mais ouais, mais moi, il faut que je parte tôt parce que j'ai mon visa qui court, etc. » Le lendemain matin, il s'est levé avant moi, il m'a réveillé, 6h du matin, il m'a fait le petit déjeuner. Et au moment de partir, il me dit « Mais t'es habillé comme ça ?» C'était plus l'hiver, hein. Il faisait un peu froid encore, mais pas tant que ça. Il me dit « Mais t'es habillé comme ça ?» Il me dit « Bah, j'ai dit oui, écoute, ça fait des mois que je roule comme ça. » Il me dit « Non, non, attends. » Il prend dans son armoire une parka et un pantalon fourré, tout ça. Et il me dit « Voilà, ça c'est pour toi. » Et très franchement, j'ai encore envie d'en pleurer tellement c'était énorme. Énorme. Un type que tu connais pas de la veille, qui t'offre son... Alors là, c'est pour le coup, il t'offre sa chemise.
Ouais.
Et eh ben ça, c'est ça le voyage.
C'est ça le voyage.
Alors donc ça c'était une expérience extraordinaire. Mais comme ça j'en ai d'autres. C'est pour ça. Mais celui-là, il est resté dans mon cœur complètement. Et un type que tu revois jamais, hein, parce que t'as beau prendre les adresses, jamais tu retournes là-bas, jamais tu le retrouves. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et ça c'est beau.
Et tout ça avec une R12.
Ouais. Hein ouais, et un type.
Regardez, c'est pas la bagnole. Hein.
Non, c'est pas le. Non,
c'est la moto.
Ça,
mais qu'on trouve plus de chez les marchands, hein, chez les concessionnaires.
Pour rigoler, je dis, mais j'ai une R12, mais une break. Hein. Ben, enfin, voilà.
Avec un sidecar.
Voilà.
Une R12, ça fait quoi? Ça fait 18 chevaux, c'est ça?
Voilà, bravo, tu es un connaisseur. Ouais, 18 chevaux.
Et aujourd'hui, on a tous des bécanes à plus de 100 chevaux et on s'imagine qu'on ne peut voyager qu'avec ça.
Non, non.
Chevaux avec un sidecar, puis j'imagine que quand tu pars, le sidecar il est pas vide, tu dois avoir tes bagages.
On est toujours trop chargé de toute manière, toujours.
Et tu as toujours voyagé avec un sidecar? J'aime bien en solo.
Oui, bon, j'ai toujours eu une moto solo pour me balader, oui. mais pour voyager, alors j'ai une maxime qui dit le sidecar c'est l'arme idéale en voyage parce que tu peux tout faire avec. S'il est pas trop lourd comme celui-là, enfin à la base. Après, tu le charges parce qu'il y a des tas de choses à emmener. Tu peux tout seul, presque, te débrouiller tout seul pour le sortir d'endroits un peu difficiles. Sinon, après, tu vides le sidecar et puis tu te débrouilles. Mais c'est gérable. C'est gérable. Et par-dessus le marché, il neige, t'es pas emmerdé. La boue, t'arrives à t'en sortir. T'es fatigué, tu te reposes sur la moto, tu dis ce matin je suis pas en état ma chérie, donc tu vas faire le boulot pour moi et puis me sois gentil avec moi surtout. Sois gentil avec moi.
Ah, tu l'appelles comme ça ta chérie?
Bien sûr. Oui. Ces machines là elles ont une âme, cher ami.
Oui.
Donc il faut savoir.
Bon, ça reste un morceau de ferraille hein, quand même.
Ouais, alors oui, moi affectueusement je dis mes tas de ferraille. Mais quand je lui demande un effort, je ne lui parle pas comme ça. Je la flatte un petit peu et elle me le rend bien.
C'est bien, ok.
Écoute, moi je fais un peu pareil. Alors je n'ai pas roulé dans des conditions telles que les tiennes. Je ne suis pas allé au bout du monde. Moi je me suis contenté de faire du tourisme en Europe à moto, en sidecar aussi souvent.
Ah,
mais à chaque fois, ma moto, je lui parle avant
bien
de partir. Sûr. Et quand elle m'amène à bon port, quand elle me ramène à bon port, Eh ben, je lui parle, je lui dis merci.
Bien sûr.
Et des fois, je lui fais même un bisou sur le carénage pour la remercier.
Mais absolument.
Parce qu'elle a une âme, c'est vrai.
Mais bien sûr. Eh ouais. Objet inanimé, avez-vous une âme? Mais comme ce sont des objets animés, ils en ont d'autant plus.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que ça représente, en fait.
Tu sais, la moto.
Tu dis que sans elle, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait.
Tout à fait. Mais j'aurais pas voyagé comme ça sans elle. Oui, c'est sûr. Je m'étais préparé. Le dernier voyage que j'avais programmé, c'était pour retourner en Russie. Il s'est terminé un petit peu en eau de boudin pour des tas de raisons. Et je m'étais préparé pour ce voyage-là une moto plus moderne, une 800 BM des années 90, donc avec du frein. avec un éclairage performant, un démarreur électrique, enfin la totale quoi.
60 chevaux.
Et quand il a fallu s'organiser ce voyage, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas partir avec une autre moto que celle-là. Enfin, que la mienne.
Voilà.
Que celle qui est là.
Ouais. Eh bien, écoute, on te remercie pour toutes ces belles aventures que tu nous as racontées là.
Ben, j'espère que ça a fait plaisir à quelques-uns.
Ah ben,
mais
c'est passionnant.
En tout cas, l'aventure, elle nous appartient et on peut tous en connaître de belles.
Eh bien, écoute, je te remercie.
Ah ben,
je te remercie et un bon retour parce que je sais que tu vas rentrer.
Oui, là, j'ai une petite route, mais c'est sympa.
Voilà, très
c'est
bien.
Sympa.
Merci, Eric.
Ben, merci en tout cas de votre accueil.
Merci,
ben, merci et à très
toi.
Bientôt.
Merci à toi, c'était passionnant.
Bonjour sur Campus Lille, Laurent Rosette, passeur d'histoire, nous raconte l'aventure de son père et de sa Zundapp et sa rencontre avec Barry Sheen, le pilote mythique des Grands Prix moto des années 70-80. Nous sommes toujours au Coupe Moto Légende et on a rencontré Laurent. Laurent, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour. En fait, tu as plein d'histoires à raconter. Oui. Et je ne sais pas par laquelle on commencer.
Voilà. Alors,
est-ce que on
peut commencer
avec ton père.
Avec mon père. Alors, mon père venait de l'île Maurice, d'accord. Mon grand-père était venu faire ses études à Lyon de médecine et il était retourné à l'île Maurice. Et il s'ennuyait à l'île Maurice, donc quand mon père avait 12 ans, il est revenu à Lyon. Et ça, c'était en 35, par là. Et il habitait à Chavannes-sur-Suran, c'est un petit village près de Bourg, entre Bourg et Lyon, par là-bas, à 25 km. Et comme mon grand-père était britannique, puisqu'il était l'île Maurice britannique, il avait été dénoncé par le curé du village, parce que c'était un ennemi à l'Allemagne.
Oui.
D'accord ? Donc, il a fallu que le grand-père aille se cacher à Lyon. Et mon père a pris le maquis avec son frère, d'accord. Et donc ils ont été se cacher. Et vers chez nous, entre Bourg-en-Bresse et Nantua, il y a une grande côte qui fait 4 km de... Mais c'est tout droit, hein. Il n'y a pas de virage, c'est une grande côte. Et la route, même maintenant, c'est encore très dur. Et un jour, ils ont bloqué des Allemands qui montaient cette côte, qui allaient de Bourg à Nantua, deux motos avec un petit camion. Et évidemment, il y avait tous les jeunes des villages autour avec des fusils de chasse et une stène. Et évidemment, ils ont tiré sur les Allemands, ils ont tué les 4 Allemands qu'il y avait, et mon papa, avec son frère, ont récupéré une Zundapp, d'accord. Moi, je suis monté dessus quand j'étais enfant, mais... Et après la guerre, mon papa a été passer son permis à Bourg-en-Bresse, tous les deux, alors évidemment, sans casque, sans gants, sans rien, vous savez, la tête en l'air.
Avec la Zundapp.
Avec la Zundapp. Et ils sont tombés sur l'examinateur, parce qu'à l'époque, on passait ça à côté de la voiture, hein, et on venait avec son véhicule, et l'examinateur a dit, c'est pour qui ? Le permis. Ah, mais c'est pour tous les deux. Ah oui, tous les deux. Et vous venez d'où ? Mais de Chavannes-sur-Suran. Mais vous n'avez pas le permis. Et mon père lui dit, mais le permis, on vient le passer. Oui, mais vous n'avez pas le permis. Oui, mais c'est comme ça. Puis après, il demande, mais cette moto, elle est à qui ? Et mon père lui dit, vous inquiétez pas, il a pris une rafale de Sten, on l'a balancée dans la falaise, ouais. Il va pas venir vous emmerder, celui-là. Et du coup, l'examinateur, il leur a filé le permis, il les a même pas embêtés, rien du tout, si c'est un stop ou quoi, allez, cassez-vous.
Et donc, ton père, il a pu rentrer chez lui avec la moto.
Et mon père, ils sont rentrés avec la moto et le permis et son frère.
Et le permis
aussi.
Et son frère aussi. Voilà.
Ça, c'est une belle histoire.
Voilà, ça c'est déjà l'une des premières.
C'est une belle histoire
que tu voulais nous raconter.
Voilà. Par contre, les Allemands se sont vengés après.
Ah bah oui.
Et puis ils ont attrapé des gens du village et ils en ont emmené sur 5. Il y en a 3 qui sont jamais revenus.
Ah oui.
Et là, ils ont fait une cérémonie l'an dernier dans le Chavannes-sur-Suran sur cette histoire qui était un peu particulière quand même. Voilà.
Tu nous as raconté l'histoire avec Barry Sheen.
Alors Barry Sheen,
un pilote emblématique. Ouais. Barry Sheen, alors, on l'a connu.
Moi, Barry Sheen, avant qu'il soit très connu, mes parents étaient voisins avec Roca. Roca, c'était un préparateur de moto. Oui. Il importait, il faisait des Suzuki. Et donc, moi, j'étais à l'époque, j'avais 16-17 ans, je traînais toujours avec ce monsieur qui était pour moi. C'était un pilote de 125 déjà, hein, ouais. Il avait fait des courses. Et puis, il était gentil. Et puis, petit à petit, on se fréquentait un peu, quoi. J'allais dans son garage et j'ai rencontré Barry Sheen, qui n'était pas encore très connu, d'accord ?
Déjà pilote, mais pas très connu.
Pas pilote et pas très connu. Ouais. Et puis donc j'allais le voir sur les circuits parce que j'étais jeune, je suis aventurier, hein, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait plein de trucs. Et donc je suis parti et un jour, mais on se connaissait déjà pas mal, un jour c'était à Chimay, et Chimay en Belgique, oui. Il fait la course, mais à l'époque il y avait un mécanicien.
C'était Grand Prix des Frontières.
Ouais, je ne sais pas le nom. Oui. Oui. Mais il y avait son père et puis un mécanicien avec une camionnette, comme ça se fait autrefois pour les petits.
Oui,
maintenant c'est fini, ils arrivent en hélicoptère.
Oui, bien sûr. À l'époque c'était comme ça la mécanicienne.
C'était comme ça, on discutait avec les gens.
On pouvait discuter avec les mécanos, le pilote. Hein, c'était...
Et le pilote, ben, il était gentil. Mais Barry Sheen était très très gentil. Et puis alors il gagne la course et son père me dit tu peux remonter la moto à la camionnette. Et moi, en roulant à pied, hein, mais je pousse la moto à la camionnette. Et là il y a une jeune fille qui est là qui me regarde et me dit, je pourrais avoir un autographe. Ben, je lui dis, oui, mais c'est pas
c'est,
moi.
Hein. C'est pas moi le pilote, c'est pas moi Barry Sheen.
Venez, ben, elle savait quand même. Venez avec moi, je vais lui demander. Et je présente Barry Sheen. J'ai des photos. Hein. Barry Sheen a été très gentil, il lui a signé ça, il lui a filé des bougies. Qu'est-ce que je t'ai montré aussi des choses. Enfin, il lui a filé des choses. Et puis, moi, j'ai gardé ses coordonnées à cette jeune femme.
Oui.
Et puis ben, j'ai fréquenté, on s'est mariés, on a fait une petite. Oui.
Cette femme qui voulait un autographe.
Et elle voulait un autographe. Ouais. Et j'ai longtemps.
Elle est devenue ta
femme.
Et c'est devenu ma femme. Et j'ai raconté ça à Barry. Qu'est-ce qui se marrait.
Apparemment, tu le connaissais bien alors.
Mais je le connaissais bien. Mais
et puis des relations vraiment.
Celle qui était très gentille, c'était
très
Stéphanie.
Ouais.
Ah Stéphanie, il avait une femme qui était gentille. Il était très drôle. J'ai raconté des fois. Une fois, c'était à Spa, et donc j'étais dans le stand avec eux, avec une des Suzuki. Il arrive, il dit à son père, l'amortisseur, il faut mettre plus serré parce que il y a un problème, ça guidonne et tout. Alors, il prend l'autre Suzuki, il fait 2-3 tours, il revient, il reprend celle où on devait changer les amortisseurs. Son père n'avait pas eu le temps de changer les amortisseurs. Barry remonte dessus, il repart, et quand il revient, il dit « Ah, c'est beaucoup mieux !» Et là, d'accord. Tout le monde a éclaté de rire. Mais on lui a pas dit, parce que ça se dit pas, mais on s'est marré, c'est dans la tête. Il y avait ça dans la tête.
Barry Sheen, c'était le pilote qui avait fait un trou dans...
Oui,
dans
il son, fumait,
dans,
oui.
Dans sa montre, malheureusement, de son intégrale, hein.
Oui, pour fumer avant de décoller.
Ouais, bah,
avant
en pré-gris, hein, comme c'était
en
long.
En pré-gris, il fumait. Ouais, non, mais
il passait la clope dans le trou qu'il avait,
ouais, il avait
fait dans son casque.
Oui, parce que moi, j'ai un de ses casques avec le trou.
Voilà.
J'ai un de ses casques avec le trou. Même, mais je sais, ça doit être au grenier à la maison. J'ai même des gants. Là, j'ai montré, j'ai son contour. Tu as vu le contour il n'y a pas longtemps. J'avais des bougies. Mais on ne se rend pas compte quand on est gamin. Il me donnait des trucs. Je ne savais pas que. Et puis,
tu as le casque à Barry Sheen.
J'ai un des casques. Et j'avais été à Londres, il était exceptionnel, il m'a fait montrer l'usine Suzuki, mais ils n'étaient pas beaucoup à l'époque pour travailler sur les motos. Hein, c'est un gentil monsieur. Et malheureusement, bah, il est décédé d'un cancer du poumon.
Bah oui, parce que c'était un gros fumeur quand même. Hein.
Ah, mais il fumait comme.
Mais c'était aussi un dragueur. Hein.
Ah oui. Alors ça, oui, bien sûr.
Mais c'est un vrai. Tu peux nous en parler peut-être.
Charme. Il avait du charme. Oui, parce que cette fameuse Stéphanie, qui était un mannequin, qui était vraiment une très belle femme, il avait piqué un homme d'affaires. Anglais.
Oui. À Lourdes.
Pendant très longtemps, il était obligé de se planquer parce que soi-disant, il y avait un fusil de chasse dans la Jaguar du Lord qui le cherchait. Et il disait, faut que je fasse attention. Mais voilà. Oui, c'est un dragueur, mais je pense qu'il respectait quand même Stéphanie après. Ils ont fait des enfants et ils sont partis vivre en Australie. Et après, j'ai plus de nouvelles parce que c'est la vie. Quoi.
Alors, Barry Sheen, hein, c'est son casque, l'emblème. Hein,
C'était le petit canard. Donald.
On a un Donald avec
nous. Et en plus, on a un Donald avec nous. Rien à voir avec le président.
Non.
Attention.
On ne parle pas de lui.
On va pas,
pas la radio.
On va pas glisser. Il était très accessible. Les gens, comme c'était la camionnette, on mangeait dehors, comme là, on voit les petits.
Comme ici.
Et alors, ils discutaient, les gens, ils payaient un coup à boire. C'était un gars bien. C'était vraiment.
Et en fait, il est parti vivre en Australie.
Ouais, il est parti vivre en Australie. Il a longtemps, alors on se téléphonait, mais il a longtemps été, parce qu'il disait qu'il ne parlait pas français. Il comprenait très bien le français. Mais pour avoir la paix...
Il comprenait, oui.
Il baragouinait, mais
ouais, d'accord.
Ouais, on se comprenait bien. Oui. Un japonais, je ne sais pas, mais français, oui.
Oui.
Il était très, très accessible pour les gens. Les gens pouvaient venir le voir. Mais je pense que tous les champions de l'époque étaient comme ça aussi.
Oui. Donc ça, c'est l'histoire.
C'est une belle histoire avec Barry Sheen.
Voilà.
Alors, j'ai fait des photos parce que sa 750, moi j'avais décoré ma 750 comme la sienne, mais j'avais pas marqué Barry Sheen parce que je respecte.
Bien sûr, quand même.
Voilà, c'est quand même. Mais quel pilote,
pilote. Oui, parce qu'il a eu un temps, il a été aussi sur une Yamaha aussi.
Je crois à la fin, hein, oui.
À la fin.
Et c'est lui qui a eu le fameux accident à 300 km/h.
Ah oui.
Il est tombé à Daytona.
À Daytona. Oui, à 300
km/h.
Ouais,
à 300
km/h. Oui, effectivement.
Ah, c'est pas ce qu'il a lancé, mais tout le monde a parlé de lui parce que vraiment c'est quand même
ce fameux accident là-bas à Daytona
où on l'a retrouvé à l'hôpital et la seule chose qu'il savait faire c'était draguer les infirmières oui qui était évidemment comme c'était un beau garçon
il était cassé de partout hein,
mais il courait après les filles
et à l'époque il y avait pas les airbags, il y avait rien les combinaisons c'était
je crois que c'est lui le premier qui a mis des combinaisons de couleur.
Effectivement parce que
c'était noir
avant c'était noir. Les combinaisons étaient noires.
Je crois que c'est lui qui a commencé.
La pub aussi, la pub qui est apparue aussi sur les combinaisons.
Il était les pubs, les pubs pour les clubs sûrement. Je me souviens.
Sûrement pour les clubs, oui, parce que c'était autorisé à l'époque.
C'était très long, il y a très longtemps, mais j'ai des souvenirs, mais de loin, quoi, parce qu'il y a une vie qui s'est passée entre temps, il y a 50 ans, quoi.
Ah oui, bah, c'est des souvenirs.
Mais j'ai des bons souvenirs, vraiment.
Voilà. Voilà, alors, une autre histoire peut-être.
Non, c'est bon, ça suffit. Non,
alors, ça peut-être suffit. On pourrait peut-être parler de ta moto là.
Ah, ma moto.
Ta BMW qui est juste en face de nous là.
Bah oui, mais les copains, là, les gens, les... Ah. Bonjour les ch'tis. Alors, en vérité, j'ai eu à l'époque aussi, en plus de la Suzuki, j'avais une R90S.
S, oui.
Parce qu'il faut se souvenir que les BMW ne faisaient que des motos noires. Hein, et quand les Japonais sont arrivés avec des motos de couleur, BMW s'est dit, si on veut s'en sortir, on va faire des motos colorées. Et donc, ils ont lancé cette moto sportive, une R90S. Il y en avait une orange et il y en avait une noire dégradée, oui. Mais orange dégradée, qui était superbe.
On les voyait plus en orange. Hein.
On les voyait plus en orange. Ouais. Et surtout, c'était la jeunesse qui prenait. Les vieux ils gardaient leur moto noire. Parce que moi, j'avais un voisin qui avait une grosse BM noire et il n'aimait pas du tout orange. Je me souviens, il avait dit « Quelle faute de goût !» Je me souviens encore de sa phrase. Alors, j'avais celle-là que je n'ai pas gardée. Et puis, il y a quelques années, j'ai racheté une 1100S à un de mes copains, une R1100S.
R, celle qui est devant nous, là.
Voilà, qui est devant nous, oui. Qui était grise, qui n'était pas très belle.
Oui.
Et au salon de la moto, j'ai rencontré un monsieur, un peintre, mais un artiste, qui m'a refait exactement la couleur de la 90S. Et
oui, parce qu'il y a un dégradé. Hein,
il y a un dégradé. Hein. La couleur est superbe.
C'est pas une peinture uniforme.
Et même, pour rigoler, alors, vos copains vont au salon de la moto, à Lyon, parce que nous, on est de la région d'Isère, il y avait cette moto exposée, la nouvelle, parce que la R12, BMW a refait une R12. R12, mais pas belle. Oui. Et le
la petite sœur de la R18.
Oui, voilà, c'est ça. Non, la R18, c'est... Non, parce que la R12, c'est pas autant de cylindres. Oui. La R18, c'est pas autant de cylindrées.
Ouais. Oui, c'est ça.
La R18, oui. La R12, c'est normal, c'est 800, 900, voilà. Pas plus. Et donc, le chef du magasin, enfin, me dit alors, il me voyait, je tournais autour de la moto, il me dit alors, elle est belle. Ah, je lui dis, l'accouchement a dû être difficile. Alors, ah bon ? Bah, je lui dis, oui, c'est pas la vraie couleur. Mais je vais avoir des ennuis avec BMW, moi. C'est pas la vraie couleur. Et en plus, le dégradé, il n'y a pas de dégradé. Elle est vraiment pas belle. Alors j'ai dit, non, elle est loupée quand même. Elle me dit, ah bon ? Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais vous montrer sa vraie fille. Et là, je sors des photos de ma moto.
La
1100S.
La 1100S, oui.
Et là, il regarde un monsieur de nos âges et il dit, ah oui. Et il a pris les photos. Et je pense que si jamais je ne l'abîme pas, elle va finir à Munich. Parce qu'elle est vraiment... C'est un artiste peintre. Le dégradé, exact. D'ailleurs, il y a plein de gens, même aujourd'hui, qui s'arrêtent pour regarder. Oh, c'est une bonne idée. Mais parce que je suis original comme garçon.
Ouais, voilà, oui.
Bon, allez, les ch'tis.
Alors, merci pour d'être passé au micro de Kikinkout et Tupal.
Et puis, Kikinkout.
Pour les auditeurs de Radio Campus Lille. Voilà, merci.
À bientôt, encore. À bientôt à tous.
I'm out of my mind. sommes au Coupe Moto Légende et nous avons croisé Pierre, le président du Gavap Moto Club de France. On le dit comme ça ou Gavap Moto tout simplement ?
Gavap Moto, oui.
Voilà, tout simplement. Ça veut dire quoi au fait Gavap ? C'est un acronyme ?
C'est le groupement des amateurs de véhicules anciens de Picardie.
Ah bah oui, voilà, parce que vous êtes domicilié à Flixecours.
Flixecours dans la Somme, entre dans... Amiens et Abbeville.
D'accord. Et donc, vous organisez tous les deux ans un Tour de France en moto ancienne.
C'est ça. On part pour trois semaines avec les copains sur des machines d'avant 1954. On va dormir en tente, du coup, pendant ces trois semaines. Et on fait des étapes autour de 200 km par jour.
En moto d'avant 1954, c'est pas mal quand même. Vous avez donc, comment ça marche ? Ils ont un roadbook, les participants ?
Tous les soirs, on distribue le roadbook pour l'étape du lendemain. Il l'installe et puis chacun roule à son rythme. On roule de deux à cinq machines par petit groupe.
Pour pas être embêté avec les démarches administratives, entre autres.
C'est ça. Et puis,
pour pas bloquer la route non plus.
D'ailleurs. Pour pas bloquer la route pour que la circulation se passe au mieux pour tout le monde. Donc, on roule aussi avec des gilets fluo qui permet également à la voiture balai, lorsqu'il y a des pannes, de les retrouver aussi plus facilement si jamais ils se sont trompés dans le roadbook. Ça permet aussi de les repérer.
Parce qu'il y a des voitures balai, c'est ça ? Il y a une voiture balai, il y a un camion.
Oui, c'est ça. Il y a deux véhicules assistance route la journée. Un camion à atelier pour le soir pour bricoler. Un camion avec les bagages pour les participants, avec leurs tentes et puis leurs affaires. Et un camion boutique où tous les soirs on fait dans la ville étape. On fait une petite présentation du club, enfin avec un stand où on peut acheter des petits goodies et on expose les motos à côté.
Et pour les participants, donc c'est tout est organisé, tout est inclus dans le package.
C'est ça, dans l'inscription en fait, il y a les repas du soir de compris, le petit déjeuner, toute l'assistance qui va avec. Il n'y a que le repas du midi en fait qui est libre pendant ces trois semaines.
Et c'est un hébergement forcément en camping, c'est ça hein ?
C'est ça, ouais. Pour garder la cohésion de groupe, tout le monde est en camping. C'est parfait.
C'est combien l'inscription ?
L'inscription est de 650 euros pour les trois semaines.
Ça va, c'est raisonnable. Vous avez combien de participants ?
On limite à 50 inscriptions.
Ah oui, parce qu'après, c'est pareil, ouais. C'est pour les démarches administratives.
C'est ça. Ouais.
Et j'imagine que c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, non ?
Oui, c'est ça. Il y a toujours les mêmes têtes. Et puis après, il y a quelques têtes qui se renouvellent au fur et à mesure, à chaque fois, quelques nouveaux.
Parce que je n'ose pas te demander ton âge. Je peux demander ton âge ?
Oui,
ouais,
pas de souci.
T'as quel âge ?
J'ai 33 ans.
Ah ouais, tu me paraissais jeune quand même.
Tu dois être le plus jeune du Gavap, non ?
Y a ma sœur qui est encore plus jeune.
C'est une affaire de famille.
Ouais.
C'est pas par hasard que t'es là ?
Non, j'ai mon oncle qui m'a fait connaître le Gavap en 2016, où j'avais fait une semaine. On n'a pas la possibilité toujours de faire les trois semaines avec les congés. Donc j'avais commencé en 2016 par une semaine. Et une fois que j'ai fait une semaine, j'ai dit maintenant, tous les deux ans, ça sera toujours les trois semaines parce que c'est tellement une aventure extraordinaire.
C'est vrai.
Ouais.
Et tu roules en ancienne alors ?
Oui, j'aime beaucoup les avant-guerres. Donc je roule avec une Mania de Bon. J'ai fait plusieurs tours avec une Mania de Bon 350 latérale des années 29-30. Et là, cette année, j'ai fini de restaurer une René Gillet, une bicylindre 750, que j'espère prendre pour le tour. J'ai déjà fait 1000 km là, sur deux rallyes. J'ai fait le tour du Calvados, c'est un tour que j'ai organisé en Dordogne, du club René Gillet. Et donc, elle a été fiabilisée. Donc, ça devrait le faire pour cet été.
Je me suis toujours posé la question. Il faut un minimum de compétences en mécanique quand même pour rouler en ancienne, non ?
J'en avais pas du tout au début, mais vraiment pas du tout. Et maintenant, à force de tomber en panne, on apprend. Et maintenant, ça va un peu mieux.
On pourrait dire peut-être que c'est des mécaniques peut-être relativement simples, hein, dans le sens où il n'y a pas d'électronique et tout ça. Et donc, on peut toujours se dépanner, finalement.
C'est ça. Et puis, il suffit d'écouter. Avec le Tour de France, on a l'avantage d'avoir des très bons mécanos aussi qui participent.
Des anciens, c'est ça ?
Des anciens et qui ont de l'expérience sur le... qu'on fait 10 Tours de France. Donc, vraiment l'expérience de rouler avec leur machine et qui savent nous guider. Il suffit de les écouter et d'écouter les conseils et on s'améliore.
Voilà, donc
attends, on a un invité.
On a un invité, oui. C'est comment ton prénom ?
Laurent.
Incrusté, voilà. Carrément.
Et tu voulais poser une question peut-être ?
Non, j'ai dit que la tonnelle était accrochée aux motos qui sont à côté. Donc,
ah oui, d'accord. Bon,
elles vont s'envoler aussi.
C'est pas grave, c'est pas nos motos.
C'est la tienne, je crois que tu as peur. Oui, c'est ça, je comprends bien.
Ok, non, mais je crois qu'on avait déjà bien fait le tour du sujet. Juste juste rappeler donc le Gavap. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, même pas forcément pour faire le Tour de France, parce que je crois que vous êtes full déjà.
Oui, hein, on est complet.
Il n'y a plus de place. Mais si par exemple,
ils peuvent venir nous voir sur des étapes pendant le tour. Là, donc on part le 16 août à Flixecourt. On a une journée présentation des machines avec un concours d'élégance. Donc le 16 août à Flixecourt, on part pour 3 semaines, et donc ce trajet pendant les 3 semaines est disponible soit sur Facebook, soit sur le site internet du Gavap. Ils peuvent retrouver les différentes étapes. On descend jusque dans les Pyrénées, donc il y a peut-être on passe peut-être pas loin de chez vous. Donc
puis pendant les vacances, quoi.
Voilà,
c'est pendant les vacances. Donc le site internet, c'est Gavap Moto, tout simplement.
Gavap Moto, .fr ou .com, les deux.
Et pareil sur le Facebook.
Sur Facebook, c'est pareil, c'est Gavap Moto.
Voilà. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'aventure, ils peuvent aussi adhérer au club.
Ils peuvent adhérer au club, ouais, c'est ça. Il faut 2 ans d'adhésion pour pouvoir participer au tour. Donc, ils peuvent adhérer maintenant.
Ils sont prospects pendant 2 ans.
C'est ça.
Pour préparer l'inscription.
Vous êtes sérieux là? Pour préparer l'inscription.
L'inscription, c'est au bout d'un an. On envoie les préinscriptions dans 1 an. Et ensuite, c'est parti.
Et pour faire partie du club. T'es pas obligé d'avoir une moto d'avant 54.
Pour faire partie du club, non, parce qu'après on organise. On essaie d'organiser pour vraiment toutes les machines. On a organisé là en mai une journée mobilette à Péronne. Moi, je fais une balade là de moto à Courroy, donc avant 14 dans l'Oise à Saint-Martin-aux-Bois. On fait quand il n'y a pas le Tour de France, il y a 3-4 jours avec des young timers. On part des années 60 jusqu'à 89. Sur 3-4 jours, ils ont fait la Normandie, ils ont fait les Ardennes. On essaie d'organiser différentes balades. Moi, je fais une semaine aussi en moto d'avant-guerre.
Ils sont dynamiques, au Gavap. Hein. Ils en font des trucs.
Malgré tout.
pour des vieux.
Oui.
On essaie. Puis là, peut-être un projet pour aller peut-être 10 jours en Corse l'année prochaine.
Ah ouais, tiens, justement. Un projet pour aller en Corse. voilà. Eh ben écoute, Pierre, merci. Ça donne envie. Et puis j'espère bien qu'on se croisera pendant ces 3 semaines sur le chemin des vacances.
Il n'y a pas de souci. Quand vous voulez.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao. Merci.
I don't need to spend my money, but still.
Bonjour Régis.
Bonjour.
Voilà, tout le monde te connaît parce que tu es membre du motoclub des Vikings. Alors, parle-nous un petit peu du motoclub.
Tout à fait, tout à fait. Donc, le motoclub, c'est un club qui existe depuis 1900. Tu vois, c'est un autre siècle, une autre époque. On cherche plein de jeunes pour se greffer.
Ah oui, vous avez des soucis pour rajeunir aussi.
Forcément.
Ah oui, ça vieillit un peu dans le club.
La sauce. Ouais. Et tu vois, quand je vois, tiens, le week-end là, qu'on passe à Dijon avec la Coupe Moto Légende, c'est là qu'on se rend compte avec toutes les anciennes et qu'on a beaucoup d'anciens. Mais c'est bien aussi que les jeunes reprennent le flambeau avec cette passion des vieilles motos et des motos contemporaines d'ailleurs. La moto en général. Voilà, c'est ce qui nous fait vivre et notre passion, elle est là, quoi.
Bon alors le motoclub. Le club des Vikings, c'est surtout
des bons échanges.
Hein,
puces moto, on appelle ça.
Hein, depuis quand?
Bah depuis 92, ça existe. Depuis 92. Avril 92. Voilà.
D'accord.
Ça a commencé l'historique un peu des puces. Donc 92, on a commencé à Oissel, sur Seine, à côté de Rouen. Et vite, ça a pris de l'ampleur et attiré beaucoup de monde. Et le site ne permettait plus d'avoir autant d'accès. Au niveau sécurité, au niveau accès, ça devenait compliqué, quoi. Il y avait que deux routes d'accès et ça saturait. Le dimanche, c'était une galère pour pouvoir accéder aux puces. Donc après, on est passé, après Oissel, on a été une fois au Parc Expo à côté de Rouen. Et après, on a été donc à Oissel sur Seine, où là, on avait un beau site. J'aime bien dire, toujours l'apogée des puces. En 2000, les années 2000, on avait 600 exposants à Oissel. C'était le champ de foire était.
Ça marche bien quand même, 600 exposants là.
Ouais, c'est pas mal.
Pas mal, hein.
On peut être fier de notre concept d'inscription. Alors, il faut savoir que pour accéder, pour faire les puces, pour exposer aux puces, il faut obligatoirement avoir une inscription. Donc une pré-inscription. Avant, il faut faire la demande. Alors tout est gratuit chez nous pour les exposants.
Si on veut vendre, c'est gratuit.
C'est gratuit pour les exposants particuliers. Alors après, les professionnels ont un droit d'exposition qui est variable selon leur pièce à vendre, soit de la pièce neuve ou de la pièce d'occasion. Voilà, il y a deux tarifs différents. Mais sinon, tout est gratuit. Donc après, c'est une manif qui permet aussi de faire vraiment une balade moto, enfin, partout en France où on peut venir. Il y a la restauration sur place, forcément, la boisson. Il y a des hôtels aux abords, donc on peut rester sur le week-end.
Voilà, le public, ça vient d'un peu partout en France.
Ça vient d'un peu partout en France,
ouais.
Oui. Et au niveau exposant, pareil. Voire même de l'étranger. On a quelques Anglais qui viennent, on a des Belges.
Alors, voilà, les pièces, c'est pas forcément que de l'ancienne, hein.
Alors, on a 80 exposants d'avant les années 80, en pièces moto pures. Après, on a beaucoup de pièces moto contemporaines et on a aussi des professionnels qui viennent vendre de l'équipement et de l'accessoire moto et pilote.
Et donc tout ça c'est gratuit. Les emplacements sont gratuits.
Voilà, les emplacements, c'est gratuit pour les particuliers.
La fréquentation,
entre 30 et 40 000 personnes à chaque édition.
À chaque édition.
Et vous en faites deux par an. Alors donc en général, c'est toujours à peu près les premiers week-ends d'avril et les premiers week-ends d'octobre. Donc
c'est que le dimanche.
On peut venir. Les exposants peuvent venir placer le samedi et l'expo, c'est le dimanche matin à partir de 6h00.
D'accord. Et alors le club des Vikings, mis à part les bourses, que fait-il durant l'année ?
Alors, le motoclub a été créé en 88 par une bande de copains et puis il y a eu des rallyes qui ont été organisés à l'époque et ça a vite pris de l'ampleur sur la région parce que c'est vrai que des petites balades moto avec des thèmes, rallyes et puis des petites épreuves qu'il y avait, je me souviens, moi, à l'époque, c'était vraiment sympathique. Et ça s'est très très bien passé. Et au bout de quelques années, des copains qui aimaient la moto et bricolaient, à l'époque on bricolait quand même pas mal les motos, et on allait souvent pour bricoler nos motos et récupérer de la pièce, on allait à Neuville-sur-Saône. Pour les anciens, ils connaissent peut-être, de Ville-sur-Saône. Ça se déroulait tous les 3 mois. Et donc, on pouvait récupérer toutes les pièces qu'on avait besoin sur les motos à l'époque. Et on a voulu, l'association a vraiment voulu faire une bourse un peu comme de Ville sur notre région, sur la région Normandie. Et voilà, ça a commencé doucement en avril 92. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et voilà, 30 ans après, plus de 30 ans après, on est toujours là et on travaille toujours pour justement faire durer cette manifestation qu'on aime, ouais. Quoi, faut le dire. Moi, je suis un passionné des puces moto.
Alors, il me semble que tu as été président du club aussi.
Oui, j'ai été président quelques années.
Quelques années.
Ouais, pendant 5 ans, il y a 5-6 ans de ça. Ouais. Mais là, alors, on a un président, le dernier président qu'on a, c'est merveilleux de l'avoir parce que c'est le président fondateur. Voilà, ça fait quelques années qu'il a repris la place de président et voilà. Ouais. Alors forcément, il est passionné, puis c'est son bébé, forcément les puces et le motoclub. Mais c'est sûr qu'on est toujours un peu à la recherche de jeunes qui voudraient venir.
Ouais, voilà, c'est ça. Forcément. Ouais, pour un peu rajeunir forcément. Le club.
Et ben voilà.
Combien de membres actuellement dans le club des Vikings?
On est 70-80.
Ah oui, quand même.
Il y a eu un peu de perte de membres pendant le Covid, la période du Covid.
Ouais.
Là, on stagne, ouais, on est à 70-80. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est surtout que pendant les puces, on arrive à être une bonne centaine avec tous les bénévoles qui viennent se greffer parce que, j'aime bien dire, les puces, c'est une belle entreprise, mais c'est une vraie entreprise.
Mais je sais, parce qu'on attend. Moi, je suis déjà venu, hein, et effectivement, c'est énorme quand même. Hein.
C'est un beau truc, ouais. On a 500 exposants. Je suis fier de dire, même cette année, enfin, au mois d'avril, on avait une trentaine d'exposants de plus qu'en octobre. Donc je suis content de pouvoir dire que voilà, il y a une recrudescence des exposants et du plaisir de venir à cette manifestation. Donc on en est super fiers. Moi je trouve que ouais, on peut être.
Voilà, 40 000 personnes, c'est quand même.
Ça tient un petit peu de monde.
C'est un beau chiffre quand même, Régis.
Un petit peu de monde. Ah. C'est vrai que dans les années.
Il y a beaucoup de présidents de clubs qui aimeraient bien aussi avoir autant de personnes lors d'une manifestation.
Ah ouais. Ouais. Dans les allées, vers 12h, c'est pas facile de se promener. Quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'on est un petit peu bousculé. Il y a pas mal de peuple. Et tant mieux. Bah, après, on est toujours. Les aléas, c'est toujours un peu la météo, forcément. Mais là, ça fait 2 fois qu'il fait relativement beau. Et,
alors, on pourrait dire, avec les réseaux sociaux, enfin avec Internet, avec tous les sites maintenant de vente, on pourrait dire qu'éventuellement, bah, une baisse de popularité pour les puces de Vikings.
Oui, tout
mais,
à fait.
Mais, apparemment non.
Alors tout à fait, c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face dans toutes les manifestations en discutant avec les exposants, aussi bien même à Dijon aujourd'hui. Hein, on voit qu'il peut y avoir une baisse de régime même sur les visiteurs et par rapport à la vente, nous c'est une... C'est une bourse d'échange et de vente, forcément, de troc. Il peut y avoir une baisse par rapport à l'Internet, mais je suis persuadé, et même plus que persuadé, c'est que on a beaucoup de passionnés qui viennent pour être auprès des vendeurs et vraiment avoir la vraie communication humaine. Et ça, c'est ça qu'on garde et qu'on veut toujours mettre en avant.
Puis c'est un but de balade aussi pour les motards,
en plus,
finalement.
Bien sûr.
Ah, bah, on sait bien que les motards, en fait, c'est ça, ils veulent être ensemble. Hein, et puis,
ouais, il y a toujours moyen de boire une bonne bière,
voilà.
Avec modération, forcément. Hein. Ça, c'est dans la communication, il paraît qu'il faut dire ça. Mais non, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Et voilà, on essaye toujours de faire des animations. Je me souviens, il y a 2-3 ans, on avait fait une commémoration à notre ami Fabrice Miguet, dit le Mig, pilote français qui est décédé en course sur route. Et on avait fait une expo sur les courses sur route et en particulier sur l'île de Man. Et voilà, ça permet on avait invité à l'époque John McGuinness pour le citer, mais il y en avait bien d'autres. Hein. Et voilà, on essaye de faire un peu une manifestation qui est ludique pour tous ceux qui aiment la moto. Donc il n'y a pas que des pièces, il y a aussi un intérêt pour la moto en général. Voilà.
D'accord. Il y a des concerts le midi, non? Il y a des animations les ventes de pièces.
Quelques fois, on a fait quelques concerts. Là, ces derniers temps, on n'a pas refait ce système. Mais ça reviendra peut-être. Hein. Pareil, on a fait aussi une expo de moto auto américaine. mécaniciennes. Donc ça, c'est pareil, ça peut attirer aussi des gens, attirer les gens qui aiment la mécanique et en général, aussi bien en deux roues qu'en quatre roues. Mais je ne vais pas dire qu'on se diversifie plus que ça. On reste quand même dans l'esprit de la moto avant tout, forcément.
Ouais, d'accord. Merci Régis.
Et merci à Kikinkou.
Il n'y a pas de quoi.
Merci beaucoup. Bonne continuation à vous tous.
Écoutez les programmes de Radio Campus sur le 106,6 ou sur le www.campuslille.com et sur les DAB+. Bonne écoute.
gone. Two wheels on a highway, four wheels flashing blue. Ten wheels coming, they're gonna make the morning new. Now, straight between headlights, Johnny's gone.
L'émission se termine, passez un bon dimanche et surtout restez à l'écoute des programmes de Campus Lille. Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit, sur la plus libre des radios. Bye!
Υπάρχουν όμως ώρες τις νύχτας μυροφόρες που κλαίνουν.